Autre radio, autre culture, bonjour. Émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous recevons le peintre Daniel Lewartowski. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Je suis très contente que vous soyez venu, parce que vous m'avez dit que vous étiez quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup.
C'est vrai, mais la peinture demande surtout à être vue, je veux dire, plutôt qu'à être expliquée. En tout cas, la peinture que je fais, moi, demande surtout à être vue. Voilà, c'est une peinture au premier degré, il n'y a pas de message caché, il faut que les gens éprouvent du plaisir à la voir. D'en parler, c'est un peu plus difficile, mais enfin, on va essayer quand même.
On va essayer. J'ai vu une exposition où vous présentiez vos toiles. Mmh. Je me suis aperçu en regardant sur Internet que il y avait de nombreuses expositions où vos toiles étaient accrochées et vues pour le public.
Oui.
Alors donc, ça sous-entend, vu le nombre de citations que j'ai de Daniel Lewartowski, que vous êtes quand même bien représenté et connu en France.
Oh, c'est trop d'honneur. Enfin, représenté en France... J'ai 65 ans, donc je fais de la peinture, disons, depuis l'âge de 20 ans. Et donc, pendant tout ce temps-là, j'ai quand même eu l'occasion de montrer plus ou moins souvent. Et en additionnant tout ça, ça finit par faire un nombre assez important de points de repère, comme vous dites. Mais non, je ne suis pas plus important que ça dans le milieu, non.
Alors le thème majeur que l'on retrouve dans votre peinture, moi j'ai bien aimé, je pense que c'est une critique de galerie qui disait ça, ce sont des hommes, des petits personnages lewartowskiens, il disait ça.
Ah oui.
Comme un mouvement.
Comme un mouvement, oui, les thèmes sont toujours les mêmes. Moi je suis un peintre figuratif, donc je traite effectivement donc de l'humain, et plus particulièrement de la famille. J'ai beaucoup fait de famille dans ma vie, enfin... Sur l'étoile, hein, pas par ailleurs, mais c'est un thème récurrent que je traite toujours d'ailleurs, et avec beaucoup de plaisir. C'est un thème sans fin, voilà. C'est quelque chose dont on peut parler indéfiniment.
Alors vos personnages ont des visages assez spéciaux quand
oui,
même.
Oui, on me l'a toujours dit. Oui,
oui, c'est ce qui frappe.
On m'a dit où ils avaient la sinusite, parce qu'ils ont ils ont un espèce de regard mi-humain, mi-animal, disons, avec un air un peu interrogatif et qui regarde un peu vers le haut, avec le nez qui est un peu fichu comme ça, entre les yeux vers le haut. Donc c'est vrai que ça leur donne un air un peu animal, mais bon, d'où venons-nous? Je sais pas, mais enfin, je crois que ça reflète, disons que c'est ma réalité, quoi. C'est ma façon de traiter les... Ils sont pas toujours comme ça, mais souvent, oui, c'est vrai que je les fais dans cette position mi-interrogative, un peu accablée aussi. Avec un petit peu d'humour, j'espère, un peu de dérision et d'humour dans le traitement. Voilà.
Les hommes, particulièrement, dans tous ceux que j'ai vus, ont tous à peu près la même tête. C'est-à-dire qu'ils ont des petites lunettes, comme vous.
Oui, alors voilà, au départ, c'était. Mais tout à fait. Au départ, c'est parti d'autoportraits. Dans le temps, j'avais pas de moustache et j'avais des lunettes rondes comme ça. Et j'avais fait quelques tentatives d'autoportraits que j'ai répétées, que j'ai continuées. Je trouvais ça intéressant comme ça. Et c'est vrai que c'est parti de là. Bon, ça a beaucoup changé, hein, ça a quand même beaucoup évolué. Du moins, j'espère que je ressemble pas trop à tous mes personnages. Et voilà. Mais le point de départ, c'était ça. Oui, c'était un autoportrait, un personnage à lunettes rondes, un petit peu interrogatif, un peu dans la lune, un peu... Voilà, on peut lui trouver tous les adjectifs possibles. C'est toujours vrai, d'ailleurs, voilà.
Est-ce que les personnages varient suivant votre humeur?
Non, c'est un travail, la peinture. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est un travail. Il n'y a pas d'inspiration, ça n'existe pas. Ça. Je veux dire, une toile en amène une autre quand on travaille régulièrement, ce que j'essaye de faire. Ce n'est pas une question d'humeur, non. L'humeur fait que quand je suis en forme, ça va plus vite, ça marche mieux, les toiles arrivent mieux. Et quand je ne suis pas en forme, pour des raisons X ou Y, c'est un peu plus laborieux. Et pour faire complètement laborieux, auquel cas, il vaut mieux laisser tomber, attendre que la forme revienne. Que les idées s'éclaircissent. Mais enfin, c'est vraiment par série, quoi, les tableaux. quand je traite des familles ou des mariés ou des couples, bon, toujours pareil. C'est par série. Il y a des choses que je trouve intéressantes dans un tableau que j'ai fait ou un papier. Je reprends, je recommence. Enfin, je recommence. Je me dis tiens, ça, je vais essayer de le prolonger, de le faire différemment, de l'améliorer. C'est toujours sur le plan plastique, sur le plan rapport coloré. Enfin voilà, c'est vraiment un travail.
Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, à moins que ce soit l'ensemble, hein, je veux dire la façon d'harmoniser les couleurs sur le tableau, façon de placer les personnages, la façon de travailler les seconds plans.
Tout ça est important, absolument. Je m'intéresse autant à la façon de placer les personnages. Enfin, c'est la composition du tableau, les rapports colorés, pareillement. Moi, j'utilise avec parcimonie la couleur quand même. Hein. C'est compliqué d'utiliser la couleur. Donc, j'essaye de tenir compte de tout ça, les premiers plans, les plans plus profonds quand il y en a. Mais surtout le coup de pinceau.
Alors j'ai vu des tableaux donc de votre main. Il y en a certains qui sont très très colorés. Il y en a d'autres qui sont
pour des périodes, oui.
Plutôt dans les sombres et assez noirs. Oui. Est-ce que ce sont des périodes ou comment ça se passe?
Oui, ce sont des périodes, oui, tout à fait. Selon les âges, j'ai fait pendant très longtemps. J'étais disons que j'ai toujours aimé la peinture expressionniste. En France, on a eu de très bons peintres expressionnistes, dont certains m'ont beaucoup marqué. Et ça m'a en particulier... J'ai connu Maurice Rocher, qui était, à mon avis, un bon peintre expressionniste. Il y en a eu d'autres. Ça m'a beaucoup marqué à des moments précis. Et c'était une époque où je faisais des fonds plus noirs. Et par exemple, des tableaux plutôt en noir et blanc qui fonctionnaient, je trouve qu'ils fonctionnaient très bien. Et puis après, bon, à un moment donné, on en a un peu marre. On a envie de faire autre chose. Toujours dans le même esprit, mais on peut modifier les fonds, faire des fonds plus clairs, faire des femmes effectivement plus... jouer plus avec la couleur au niveau des personnages, enfin c'est des choses qui se succèdent. Là actuellement je retravaille avec des fonds noirs, donc j'avais arrêté pendant quelques années.
Dans votre exposition que j'avais vue, moi je m'étais arrêtée sur des tableaux, alors, il y avait une espèce de triptyque de petits bonshommes en rouge... qui doivent dater...
Ah oui, oui, il y a trois personnages sur un tableau, c'est pas un... Pas
oui, non, parce qu'il y avait trois tableaux comme ça.
Il y avait trois tableaux,
comme ça,
c'est exact,
voilà.
Oui, mais en fait c'est pas un triptyque, c'est comme ça, c'est une série, voilà. Oui. Genre d'exemple de série que j'ai faite. Et oui, non, c'est des personnages, c'est toujours pareil, ça tourne autour des personnages. Là, c'était jouer sur les vêtements rouges, essayer d'en tirer un maximum de parti. C'est tout, quoi. Effectivement, il y avait trois tableaux qui sont à peu près de la même époque, oui. C'est vrai, j'en refais encore de temps en temps. Ça me reprend quand je veux. C'est bien pour traiter la couleur, quoi, disons.
Alors justement, on parle de la couleur. J'aimerais bien qu'on s'étende un peu là-dessus. Parce que vous avez des couleurs que je trouve extraordinaires. Vous avez des verts qui sont particuliers, que je trouve que chez vous.
Pourtant, c'est des verts du commerce.
C'est des verts du commerce. Et pourtant, ils ont l'air, je ne sais pas comment vous les travaillez, mais on a une espèce d'aspect translucide à l'œil. C'est
oui,
assez
oui,
curieux.
Ben pour avoir un beau vert, il faut, pour avoir un beau n'importe quoi, d'ailleurs, que ce soit un rouge, un bleu, même un noir, il faut revenir dessus, il faut faire... Je ne sais pas combien de couches je peux mettre sur un verre, par exemple. 5-6 couches. Donc ça donne des transparences. Tout ça en transparence finit par donner un aspect très particulier à la couleur. Vous n'aurez jamais deux verres pareils, quoi. C'est... Le rouge, pareil, d'ailleurs. Quand je fais des rouges, je reviens dessus 5-6 fois. C'est ce que je sois satisfait du résultat, disons, de l'ensemble. Donc, mais au point de départ, les couleurs, c'est toujours les mêmes. Hein. Les verres, je vais les acheter chez le... marchand de couleurs comme les copains, c'est pareil, quoi. Moi, je peins beaucoup avec des pigments, à vrai dire, hein, plutôt qu'avec des couleurs en tube. C'est plus, on peut plus facilement doser les quantités de couleurs avec des pigments et des liants acryliques. Et ça permet, vous avez différentes sortes de liants, plus ou moins épais selon ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, quand on veut obtenir des transparences, il y a un liant bien particulier pour faire des transparences. Et voilà, avec quelques pigments et un liant un peu fluide, on arrive à avoir des superpositions de couleurs magnifiques. C'est tout, hein.
C'est marquant, en tout cas.
Et l'intérêt de la... Alors, moi, je peins beaucoup à l'eau, hein, c'est une peinture acrylique, donc. Les liants sont des liants acryliques. L'intérêt, c'est que ça sèche tout de suite, quasiment. Ça sèche très vite, donc on peut constamment continuer le tableau, revenir dessus autant de fois qu'il le faut, jusqu'à jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Voilà, chère madame.
Alors aussi, parce que c'est mon côté maritime, archéologue sous-marin, vous avez une façon de représenter la mer qui est très particulière.
Avec des bleus. Ah oui, ça m'est arrivé de représenter la mer.
J'ai bien noté cela.
Vous avez raison. Qui est très particulière. Pourquoi ?
Avec des bleus-verts, mais ce sont les couleurs que l'on voit quand on est sous l'eau.
Vous me flattez beaucoup, vous allez me faire rougir. Non, mais c'est surtout les rapports colorés. Je traite la mer par rapport à ce qu'il y a à côté. S'il y a des rochers, s'il y a des personnages. Donc le bleu est pareil, quoi. Il faut que ce soit par rapport à ce qu'il y a autour, la mer. Même des fois, je fais des poissons aussi qui sortent de l'eau.
Oui, que j'allais dire.
Tout à fait. Donc ça compte, ça fait des points de couleur, ça fait des zones colorées sur un fond gris-bleu ou vert.
Par rapport à d'autres peintres, les autres peintres, on voit le premier plan et on a tendance à oublier le second. Alors que lorsqu'on regarde vos tableaux, on voit le premier plan et tout de suite l'œil est accroché sur le second.
Il faut tout voir, bien sûr.
Et c'est ça que j'ai trouvé excellent.
Écoutez, vous m'envoyez ravi. Non, mais tout est important dans un tableau. Il n'y a pas que le premier plan qui compte. Ce qu'il y a dans le fond, parfois, est aussi important que... Je voudrais pas prendre des comparaisons hasardeuses, mais regardez les tableaux de la Renaissance italienne. Vous avez des paysages dans le fond qui sont Sfiumato, de Léonard de Vinci, et qui sont aussi importants que les premiers plans, ou Van Eyck, par exemple, qui montre des personnages, comment elle s'appelle, la Vierge du chancelier Rollin. Vous avez donc ces personnages au premier plan, mais vous regardez derrière, il y a plein de trucs derrière, plein de choses derrière.
Ça fait la même chose. Mais c'est amusant que vous disiez ça, parce que c'est ce que j'ai pensé j'ai regardé vos tableaux.
De toute façon, il faut aller dans les musées.
Cela a un côté un peu plus naïf dans les représentations, ne serait-ce que les petits bateaux ou le poisson.
Oui, de temps en temps, oui.
Quand on regarde, on dit, tiens, que se passe-t-il derrière ?
Mais il se passe quelque chose derrière, oui. Comme dans la vie, il y a toujours quelque chose, j'allais dire au deuxième plan, mais c'est ça, c'est un enchevêtrement d'un tas de choses, Et pour la peinture, c'est pareil, quoi. Il ne faut pas minorer ce qui se passe derrière, voilà. Donc c'est ce que j'essaye de faire, du moins, voilà. J'y pense en tous les cas quand je le fais.
Est-ce que vous avez des critiques qui se sont amusées à faire de la psychanalyse sur vos tableaux ?
Ils font ce qu'ils veulent, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas une peinture à viser, encore une fois, c'est pas une peinture à message, il n'y a pas d'arrière-pensée. Psychanalyse, je connais peu, je connais un peu, mais enfin, j'y pense pas quand je fais de la peinture en tous les cas. On me tend sûrement qu'il y a moyen, il y a matière à dire, sûrement. Certainement, comme dans tout, vous prenez une barque bretonne avec un défilé, vous trouverez sûrement à dire, à parler psychanalyse. Enfin, j'imagine, non ?
Bien sûr.
Bon.
Est-ce que vous avez eu plusieurs périodes dans votre œuvre, dans votre carrière artistique ?
Oui, plusieurs périodes. J'ai commencé à peindre, j'avais une vingtaine d'années, je suis autodidacte. Avec un copain donc qui peigne aussi, qui m'a montré un peu, on a commencé à s'exciter là-dessus tous les deux. On allait beaucoup dans les musées, ce qui était à mon avis une bonne chose, et j'ai commencé à peindre en regardant de la peinture abstraite. Je me disais, mais c'est vachement facile ce qu'ils font. J'ai regardé Miro, il y avait Mathieu, il y avait Soulages déjà, il y avait un tas de... Ensuite il y a eu les expressionnistes abstraits, les Américains, je me disais, mais c'est génial ce qu'ils font, c'est vachement bien. Pollock... avec ses dripping là. Et j'ai commencé à peindre un peu là-dessus, quoi, en partant de choses... faire des taches de couleur, c'est facile, a priori. C'est vrai que c'est facile. Et puis, au fil du temps, on finit par s'organiser un peu intérieurement. Et puis, on a des choses qu'on a plus envie de faire que d'autres, envie de dire. De toute façon, je conseille à tous ceux qui veulent faire de la peinture d'aller au musée, d'aller dans les musées. On parle beaucoup de l'art brut avec Dubuffet qui prétend qu'il n'avait jamais rien vu, mais ce n'est pas vrai, il connaissait très très bien la peinture. Et ce qui lui permettait de s'en dégager peut-être et de faire quelque chose d'original et de brut, comme il disait. Mais il faut quand même aller voir ce qui s'est toujours fait. Enfin, faut être curieux de nature pour faire de la peinture, sinon ce n'est pas la peine.
En général, quand on peint pour soi ou pour présenter
pour soi.
Le public, finalement, ça, ce n'est qu'accessoire.
Non, c'est pas accessoire. C'est gratifiant le public. C'est bien de pouvoir montrer. Quand on peut montrer, c'est parfait. Moi, actuellement, depuis déjà un bon bout de temps, je peins pour moi. C'est vraiment. Bon, quand j'ai des expos, je crache pas dessus. J'aime bien. Mais c'est avant tout, je pense pas J'ai pas d'arrière-pensée de quand je fais une toile, je me dis pas celle-là, je la montrerai avec ci, avec ça, avec ça. Je la fais pour moi. Ça fait partie, je vous disais, d'un suivi, d'un travail. Point, c'est tout, quoi, voilà.
On vous enlèverait vos pinceaux demain.
Ah, ça m'embêterait.
Vous arriveriez à survivre.
Oui, parce que je suis un grand je lis beaucoup. Et donc, je ferai autre chose, tant pis, je me rattraperai sur le. Je me rabattrai sur la lecture, mais ça m'embêterait quand même. Ça m'embêterait. Qu'on me laisse au moins un petit pour faire des gouaches.
Alors justement, on va parler des formats et des supports. Lors de l'exposition, j'ai vu que vous aviez des toiles et vous aviez également des peintures sur bois, si
oui,
je
beaucoup,
me souviens.
Oui, beaucoup, oui.
Bien. Et vous c'est aviez bien également des papiers.
Des papiers, ben voilà. Alors les papiers, c'est un peu. Je fais actuellement, c'est ce que je fais le plus des papiers pour une question de place. Hein. Je ne sais plus où j'en ai fait tellement. Pourtant, je détruis beaucoup. Hein. Je casse beaucoup de tableaux. Dans les 5 ans disons, qui suivent, il y en a qui ne tiennent pas la route, qui ne me plaisent plus, au bout de quelques années, je les détruis. Je détruis à peu près un quart, entre un quart et un tiers, j'en détruis pas mal. Et des choses que je trouve qui n'ont pas grand intérêt finalement, même qui sont peut-être pas mal faites, mais qui amènent rien, quoi, disons. Et donc,
ça peut arriver de vous tromper ?
Oh, c'est possible, je ne sais pas. Une fois que c'est détruit, c'est détruit.
Vous ne gardez pas de photos ?
Non, oh, ben, j'en ai quelques-unes. Si, il y en a que je garde à travers les catalogues ou à travers... Mais non, une fois. De toute façon, quand je détruis, je suis sûr que j'ai pas envie de la garder, quoi, disons. Par contre, les choses anciennes, il y a des choses anciennes, Dieu merci, qui me plaisent toujours. Celles-là, je suis sûr que je les garderai. Quand ça a passé un certain cap, après, je sais que je les garderai. Mais il y a toujours un cap. Pour moi, j'estime 5 ans. Dans les 5 ans, bon, si ça dépasse ça, et que je dis oui, finalement, ça va, ça tient la route, ça me plaît bien, je les garderai. Et si dans les 5 ans, j'ai des doutes, ou que je vois des trucs que je trouve un peu merdiques, je casse.
Cela vous arrive d'avoir un tableau sur lequel que vous aimez profondément et que vous ne voulez pas montrer ?
Tout à fait. J'ai ma petite collection à moi, c'est vrai. Des tableaux que je ne veux pas montrer et dont j'ai du mal à me séparer. Une petite collection. Des tableaux dont j'ai du mal à me séparer, mais enfin bon... S'il faut les montrer, je les montre, et s'il faut les vendre, je les vends, avec plaisir, de toute façon. Faut quand même pas rêver, c'est pas... Mais j'en ai une dizaine que j'ai gardées, que je garde chez moi, que je montre pas, quoi, que je me garde pour moi.
Comment ça se passe au niveau d'une galerie ? Est-ce que c'est la galerie qui vient dans votre atelier, qui choisit des toiles, ou c'est
oui.
vous qui décidez ?
Ah non, non.
Non, je voudrais
ah non,
que
non,
ce
non.
soit...
La galerie, comme disait Armand très justement, la galerie est un mal nécessaire. Si on n'a pas les galeries pour montrer, comment on fait pour montrer la peinture ? Donc la galerie, elle fait son boulot, elle est chez elle, c'est elle qui choisit les tableaux, c'est elle qui accroche en général, donc c'est tout, moi je n'interviens pas là-dedans.
Mais il faudrait qu'il y ait des rétrospectives plutôt, pour que ça soit comme ça, avec finalement la représentation de votre travail.
Là, ce que vous avez vu, il y avait une cinquantaine de pièces
oui,
quand même,
oui,
hein.
Oui.
Donc c'était déjà pareil, hein. C'est bon, des gens que je connais... Dominique Sachel, que je connais depuis longtemps, qui m'a proposé cette exposition, et je me suis occupé de absolument rien sur l'accrochage. C'est eux qui ont tout fait. Ils ont choisi les tableaux, on a mis au moins 2 après-midi pour qu'ils arrivent à faire quelque chose de cohérent, tant qu'à faire. Hein. Et ils ont choisi les tableaux, ils ont fait un décor qui était assez beau, je trouve.
Oui,
enfin,
moi, intéressant. Hein. Oui, tout à fait.
Et ils ont accroché, c'est eux qui ont tout fait, voilà.
Je trouvais que c'était original et
ouais, oui,
que,
oui, oui.
Que les toiles étaient bien éclairées, bien c'est présentées.
C'est vrai, c'est vrai. Et... Ce sont des gens de théâtre en plus, donc ils ont une façon de mettre en scène la peinture qui est tout à fait originale. Oui, voilà.
Il y a certains musées qui pourraient prendre des leçons.
Bah oui, tout à fait. Vous voyez pas ça dans beaucoup de galeries.
Oui, oui, oui.
Là, c'était vraiment...
C'est vrai qu'il y avait le spot là où il fallait, où la lumière accrochait.
Absolument.
Et on s'arrêtait systématiquement devant la toile en disant « Ah oui, oui, effectivement ». Alors, en revanche, moi, quand j'ai regardé vos papiers, j'ai trouvé que les papiers étaient très tristes. Alors,
non,
c'est peut-être dû au support, mais...
Non, je crois que c'est l'éclairage qui n'était pas... On les a rajoutés, ils ont voulu tout mettre après, mais je ne sais pas si vous étiez encore là. Il y a des gens qui ont demandé à avoir des papiers sous un autre éclairage. On en a défait quelques-uns, on a été les mettre au centre. Enfin, et ils étaient beaucoup plus lumineux et tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient... Non, pas plus triste que les tableaux, c'est pareil, hein, c'est fait de la même façon. Hein, donc il n'y a pas de raison que le support entraîne une tristesse particulière au niveau de la peinture. Quoi. Donc voilà, donc, ils étaient je crois qu'ils n'étaient pas bien mis en valeur. On les a mis à la fin, Peut-être qu'il aurait pas, il aurait peut-être fallu les laisser dans un coin, que les gens les regardent comme ça. Enfin, bon. Non, mais en général, les papiers sont pas tristes, pas plus que les toiles. Au contraire, non, mais je dis ça surtout que maintenant, je fais 10 papiers pour une toile, quoi.
Et le travail sur le bois, c'est une période où...
Non, j'en fais toujours des bois. C'est bien de travailler sur le bois. Ça résiste mieux au niveau du pinceau. C'est pas le même contact, c'est pas pareil. J'ai l'impression d'avoir plus de liberté que sur une toile. Sur une toile, faut pas se louper, quoi, parce que on a du mal à revenir dessus. Alors que sur un bois, c'est beaucoup plus libre. Sur un papier aussi, c'est beaucoup plus libre. Papier, si je me plante, tant pis, je le déchire et puis c'est tout. Je reprends un autre. Mais une toile, si vous vous plantez, et pour recommencer, c'est plus compliqué, quoi. Il faut retendre, il faut arracher, enlever, retendre. Comme je fais tout, mes toiles, je les fais moi-même, hein, je prépare tout moi-même. C'est plus de boulot, quoi, c'est tout. Moi, je suis un peu plus inhibé devant une toile que devant un papier, par exemple. Voilà.
Ça se comprend.
Je dis, faut pas que je me trompe, quoi. Sinon, ça arrive, hein, et à la fin, je dis, oh, c'est pas trop mal, je la mets de côté, je la regarde après, je dis non. Il faut tout redéfaire et recommencer. Donc, il faut retendre la toile. Moi, je travaille sur. De toute façon, même sur toile, c'est des papiers marouflés. Hein. Mmh. C'est des papiers collés sur toile. Ça évite de faire des enduits compliqués, etc. Donc, moi, je colle un papier et faut recommencer, quoi, c'est tout. C'est pas grave. C'est la vie. On réussit pas toujours du premier coup, hein, dans la vie, pour un tas de choses. Pas que pour la peinture.
Oui, effectivement. Dans la technique que vous utilisez, dans les outils que vous utilisez, uniquement des pinceaux ou vous utilisez d'autres choses ?
Oui, des pinceaux. Non, des pinceaux, c'est très simple. Hein, que j'achète chez le quincailler, c'est pas compliqué, ça. Alors, vraiment. Et puis, donc, je vous ai dit, je travaille avec les pigments, les liants acryliques. Pour les premières couches, les fonds, je vais chez Leroy Merlin acheter des pots de peinture. Ce que font un tas de gars, hein. Des peintures acryliques, c'est très solide. Et ensuite, quand on veut effectivement avoir des rapports colorés plus intéressants, faut mieux avoir des peintures de bonne qualité, quoi. Enfin, donc en particulier des pigments pour moi. Mmh. Voilà, donc j'ai appris quand même. Bon, je suis autodidacte, mais j'ai pris des cours. Enfin, j'ai un ami qui était prof aux Beaux-Arts, parce que je connais des gens aux Beaux-Arts, qui était prof de technique, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'il m'a appris donc à bien tendre une toile, à faire un enduit, faire un vernis, un médium. Et ça, il m'a fait travailler pendant un an. J'allais une fois, c'est un bon copain, il n'était pas loin de chez moi. Et il m'a appris plein de choses, quoi, voilà, sur le plan technique de peinture. C'est tout ce qui a été ma formation. Et le reste, c'est en bidouillant moi-même mes tableaux que on finit par progresser quand même, par trouver des choses. Des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut mieux éviter. C'est l'expérience qui guide.
On va en revenir au tout début. Quand on commence à être peintre, on décide d'être artiste peintre, est-ce qu'on n'a pas un peu de mal à présenter ses œuvres au public? Ou cela va de soi?
Ah, moi, ça ne m'a posé aucun problème. En fait, moi, j'ai une formation scientifique. Hein. Moi, je suis médecin. J'ai fait de la médecine générale pendant... Mais Céline a bien fait de la médecine. J'ai des antécédents célèbres. Il y a eu un... Et donc, j'ai fait de la médecine. C'est là que j'ai commencé à rencontrer mes premiers... les premiers peintres que j'ai connus, quoi. Je faisais déjà de la peinture quand j'étais au lycée avec un ami, donc, que je vois toujours. C'est un vieux copain de lycée. Donc, je faisais ça comme ça. On avait une association. On montrait. Ouais, bon. Quand je pense à ce qu'on montrait maintenant, enfin bref, on montrait quand même. On a même, comme il y avait des, on montrait en Allemagne parce qu'il y avait des jumelages de communes, donc on est allé en Allemagne montrer et on montrait tous les ans nos tableaux. On avait un petit groupe de peintres amateurs, bien sûr. Hein. Et ben, à partir de quand on devient professionnel, je sais pas. Et donc moi j'ai mené de front, mais moi la peinture ça me tenait beaucoup quand même. Hein. Il n'y avait pas de problème. Pendant mes études j'ai un peu baissé, un peu levé le pied parce que fallait quand même préparer les examens médicaux. Et puis, j'ai été jusqu'au bout de ma médecine, donc hein, j'ai eu mon diplôme, je me suis installé. Et j'ai rencontré des gens qui habitaient près de mon cabinet et qui étaient, pareil, qui étaient aux Beaux-Arts, qui étaient étudiants encore et qui bossaient à côté. Enfin, j'ai commencé, c'est un peu le hasard, quoi. Et donc, je me suis fait des amis dans ce milieu-là, qui m'ont présenté d'autres personnes, qui avaient fait, ces gens-là avaient fait ce qu'on appelait le pavillon de Bonneuil. Je parle de tout tant qu'on y est. Et c'était, il voulait recréer un peu ce qui se passait ou à la ruche ou au bateau lavoir. Voilà, des associations de peintres où il travaillait là-bas vraiment. Il ne sait pas que travailler d'ailleurs. Et il faisait aussi beaucoup la noce, beaucoup la java. Et donc, mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde déjà à ce moment-là.
Comme le Montparnasse des années 30.
Hein. Ouais, pareil. Bah là, c'était pareil. C'était très agréable d'ailleurs. C'était une période très très sympathique. Bon, il venait me voir au cabinet quand il qui bossait, qui faisait des livraisons pour gagner sa vie. Et alors, il me disait arrête-moi quelques jours parce que vraiment j'en peux plus. Donc voilà. Et je leur rendais des services même sur le plan médical. Et puis voilà, oui, ils m'ont un peu fait progresser, fait connaître d'autres artistes. Et un en particulier qui s'appelait Michel Salzmann, qui était, on a été amis pendant très longtemps. Et puis on s'est un peu perdu de vue après, mais qui m'a... Alors on sortait tous les jeudis ensemble, on allait à Beaubourg. Enfin, Beaubourg n'existait pas encore. Hein. On se trimbalait dans les galeries, on allait selon les quartiers, on allait voir des expos où il y avait... Enfin, il m'a fait connaître un tas d'artistes, Zoran Music, enfin, des types importants pour moi. Et voilà, bon, on passait notre temps à ça, et ça m'a permis de... J'emmagasinais tout ça quand même. Et je me suis remis à peindre, quand je me suis installé, je me suis remis à peindre plus sérieusement. J'avais mon atelier pas loin du cabinet d'ailleurs. Donc ça me permettait d'avoir des horaires assez souples. Et je peignais 3-4 heures par jour quand même.
Ah oui, quand même. Oui.
Mm-hmm. Je peins guère plus maintenant. Hein. Quand j'ai peint 3 heures, j'ai une tête comme ça, je ne peux pas travailler.
Ça demande beaucoup de concentration.
Oui, c'est fatigant. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quelque chose de fatigant.
Comme toute création artistique, en général.
C'est très anxiogène, pour moi. Hein. Donc ça me demande beaucoup d'efforts, peut-être en vieillissant, je ne sais pas. Peut-être que je fatigue plus qu'avant, mais quand j'ai peint 3 heures, j'arrête. Hein. Je fais d'autres trucs, je peux tendre des toiles, je peux vernir, je peux faire crayonner un petit peu. Mais faire de la peinture, au bout de 2-3 heures, il faut que j'arrête. Parce qu'après, ça part, c'est plus bon.
Quand on est artiste, est-ce qu'on cherche à être cavalier seul, à être unique, ou faire partie d'un courant artistique ?
Oh, il n'y a plus de courant.
Il n'y a plus rien.
Non, c'est une... Je suis de... Non. Quand on me dit, oui, ce que vous faites, ça ressemble à ci ou à ça, je dis non. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est du Livartovski. Je fais ma peinture à moi sans me préoccuper. Je suis toujours aussi curieux de voir la. Et plutôt bon public, j'aime bien voir la peinture des autres. Je fréquente toujours autant les musées, les expos. Je suis allé à la FIAC il n'y a pas longtemps. Je suis très curieux de tout ça, mais ce que je fais moi, maintenant, c'est mon histoire à moi, point. Il n'y a plus de courant, vraiment, parce que beaucoup de choses ont été faites, à moins d'être dans l'avant-garde, ce qu'on appelle l'avant-garde. Alors, vous avez des artistes qui essayent de... Il y a eu encore quelques groupes, après-guerre, il y en a eu pas mal, même. Regardez la figuration narrative, ou Buren, comment il s'appelait, Toroni, ils étaient 3-4, là. Il y a eu des groupes comme ça, ou Support Surface... La nouvelle figuration avec Combas, Di Rosa, enfin, tous ces types-là. Il y a eu des courants à ce moment-là. Mais depuis ça, à ma connaissance, il n'y a plus grand-chose hein, comme question courant.
C'est dû à être trop indépendant ? Comment ça se passe ?
Je ne sais pas.
Est-ce qu'en tant qu'artiste peintre, vous cherchez tous, je parle des artistes peintres en général, à se retrouver ?
Alors moi, je fais partie de la Biennale des 109, qui est un salon, un bon salon parisien, qui a lieu tous les 2 ans. Je suis au comité, je suis rentré au comité, parce que je me disais que ça va me permettre de rencontrer d'autres gens, d'autres peintres. Sur le plan amical, c'est vrai, sur le plan peinture, non. Ça me permet de les voir de temps en temps, on bavasse un peu, on s'occupe de la prochaine biennale, je vous enverrai une invitation. Et voilà, c'est tout, mais ça influence absolument pas mon travail. Et tout seul, dans mon atelier, tout seul, je sais ce que je veux faire à peu près. Enfin, je continue mon histoire, quoi, en fait, c'est tout. Mais ça n'a rien d'original, hein, beaucoup de peintres font ça. Hein.
J'ai également lu que certains critiques vous comparaient à Soutine.
Oh, c'est gentil, ça. Ben décidément, je suis ravi d'être venu. Dites donc, vous m'en faites des compliments. Soutine, pourquoi pas, oui, parce qu'il y a un côté gestuel dans sa peinture, côté sauvage. C'est un sauvage, Soutine, de toute façon.
Oui, de toute façon.
Et peut-être le côté juif aussi, parce que moi, je suis d'origine juive. Hein. Ma mère est née à Varsovie, mon père a été déporté. Et donc Soutine a aussi souffert de pendant la guerre, il a été obligé de se planquer, il est mort pendant la guerre d'ailleurs. Mmh. Donc j'ai beaucoup d'affection pour sa peinture, c'est vrai, oui. Mais pas uniquement le côté juif, hein, parce que c'est un très bon peintre.
Alors c'est amusant que vous abordiez ce sujet-là, parce que dans... j'ai remarqué qu'il y avait des livres qui parlaient de l'art juif,
oui.
Et qui vous citaient systématiquement.
Ah bon ?
Oui. Comme un représentant type de l'art juif.
Tiens, là autre chose. Pourtant, ça n'a rien à voir, alors vraiment.
Alors, je me suis posé la question si ça venait pas dans les couleurs.
Des couleurs
un peu nordiques, de ces verts, ces bleus, etc., un peu nordiques, qui fait qu'on pense tout de suite à ces juifs du Nord qui sont venus...
Juifs d'Europe de l'Est, bah oui, il y en a eu un paquet, hein. Chagall, bien sûr, le plus connu, mais Soutine aussi, Kikoïne, Crémaigne, enfin, il y a eu beaucoup de... Mais il partait de là-bas, au fil, c'est pas tellement... C'est vrai que Paris était vraiment la capitale de l'art, à ce moment-là. Bon, donc, ils venaient tous à Paris. Parce que c'est là que se passaient les choses.
Bah, il y avait Modigliani, il y avait Chagall...
Modigliani aussi, oui, bien sûr. Il y en a eu beaucoup, hein. Mais non, moi c'est plus fini ça. Bon, ils étaient aussi, ils étaient beaucoup emmerdés les Juifs en Russie ou en Pologne ou dans les pays de l'Est. Ils étaient quand même pas mal embêtés. Donc ils venaient à Paris aussi pour ça, pour être tranquilles quoi, hein, qu'on leur foute la paix un peu. Maintenant c'est plus vrai quoi. Je sais pas pourquoi je sais pas où est-ce que vous avez vu ça. Je sais pas.
Ah ben moi c'est toujours dans des bouquins. Dans des bouquins sur l'art juif.
Ah bon. C'est qui ? Je ne connais pas.
Oui, je vous trouverai les titres.
Oui, vous me direz, ça me... Ça...
Voilà.
Alors, c'est vrai que j'ai fait une fois une expo avec des amis.
Ouais, je me suis demandé aussi si ce n'était pas par rapport au personnage et la façon dont vous dessinez les figures. Parce qu'il y en a
des têtes de juifs, mais...
Non,
mais...
c'est pas ça. C'est que il y en a qui cherchent la psychanalyse, qui travaillent beaucoup sur la psychanalyse et l'art, et qui ont montré que dans l'art juif, très souvent, on n'avait pas le droit de présenter jusqu'au 19e siècle l'être humain.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai.
Fait,
et très souvent, il y en a qui ont peint des visages qui faisaient que c'était pas très représentatif. Les visages ne ressemblaient pas véritablement à un être humain. Et ils se sont posé la question si vous aviez peint vos visages de cette manière-là.
Oh non, pas du tout. Non, non.
Ou si c'était caché dans votre subconscient.
Même pas. Non, parce que j'ai aucune culture juive. Hein.
Oui.
Nous, on a été élevés vraiment d'une façon laïque. Moi, j'ai eu aucune éducation religieuse. Rien du tout, hein, à part le hareng que j'aime beaucoup et puis les cornichons. Mais sinon, c'est tout. Ça s'arrête là. Hein. J'ai aucune approche. Ah, si, ma mère, mon grand-père a beaucoup vécu à la maison et il parlait yiddish entre eux. Donc, c'est vrai que j'ai été baigné dans ces sonorités un peu particulières. Puis on mangeait un petit peu traditionnel, quoi, parce que lui, il aimait bien ça, le grand-père, et puis ma mère aussi, mais nous, on aimait bien ça aussi.
Ouais,
donc voilà, j'ai connu ça, mais ça s'arrête là, vraiment. Maintenant, vous allez rue des Rosiers, il n'y a plus, qui était donc le quartier juif, il n'y a plus que des boutiques de fringues,
tout
de toute
fait.
Façon. Il n'y a plus rien rue des Rosiers. On voit de tout, quoi, je veux dire, c'est cosmopolite, il y a un peu de tout, hein. Voilà, donc non, ma peinture n'a rien à voir avec l'art juif, hein. rien du tout.
Voilà, et eh bien, en tout cas...
Que les choses soient claires entre nous, voilà.
Bien, ce que je voulais savoir également, alors je reprends mes petits papiers, est-ce que c'est important de savoir ce que les gens pensent de votre travail ?
Pas tant que ça, finalement. Quand on m'en dit du bien, je suis ravi, c'est plutôt encourageant, c'est... gratifiant, comme on dit. Mais les gens qui n'aiment pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave.
Ça vous touche, les mauvaises critiques, s'il y en a ?
Pas du tout. Je les lis pas, d'abord. Les mauvaises critiques. Non, il y a des gens qui n'aiment pas, que ça dérange beaucoup, qui accrocheraient pas ça chez eux. Je comprends bien hein, qu'on puisse pas forcément aimer ce genre de peinture. Ça me pose aucun problème. Je peux en parler avec eux, je peux... Et ça me vexe absolument pas, je suis pas frustré de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je continue toujours à travailler de la même façon, c'est pas ça qui me fera modifier ma façon de peindre, hein, bien sûr.
Au niveau des titres,
oui.
Est-ce que vous passez beaucoup de temps à trouver un titre ou cela vient comme ça
Non, ça vient comme ça, ça vient souvent assez rapide. Par contre, je vous dis, je suis un gros lecteur. Alors, des fois, je trouve des phrases ou des morceaux de phrases qui me disent, tiens... Ça me ferait bien faire un tableau, mais toujours dans ma façon de travailler. Je la note.
Oui.
Et quand j'arrive à faire un tableau où l'atmosphère y est, par rapport à ce que j'ai lu, je note la phrase au dos du tableau.
Mais par elle exemple, pas en titre. Elle ne passe pas en titre.
Si, elle peut passer en titre. Ou un titre de... Par exemple, j'ai fait une série sur la conjuration des imbéciles. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Qui est, pas, comment il s'appelait Kennedy, enfin je ne sais pas quoi.
Ah oui,
donc ce type a fait un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui est merveilleux, qui est d'une drôlerie. Moi, j'ai trouvé ça irrésistible. Il n'a pas trouvé d'éditeur pour le sortir.
Vrai, oui.
Il s'est suicidé. Il s'est flingué. Je crois qu'il s'est suicidé dû à ça. Je ne sais pas par quel miracle. Quelqu'un l'a... Je crois que c'est ses parents ou ses frères et sœurs ont porté ce bouquin chez un éditeur qui, lui, a trouvé ça formidable, qui l'a édité. Ça a fait un succès quasiment
mondial.
Planétaire.
Oui,
mais oui.
Tout à fait, oui, oui.
Donc, tout le monde connaît la conjuration des imbéciles. Donc, j'ai fait une série de tableaux là-dessus. Voilà. Toujours des couples, hein, de toute façon. Mais on peut en faire des crétins et... On peut faire de tout dans les couples. Et voilà, donc ça, pour en revenir au titre, voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait frappé. Et je voulais le mettre dans ma peinture. Et je l'ai fait de cette façon-là. Donc j'ai deux, trois tableaux qui s'appellent « La conjuration des imbéciles ». D'après, je le cite, hein, je ne vais pas piquer le titre de son bouquin. Hein.
Est-ce que justement, dans les titres, dans la façon dont vous peignez certaines toiles, vous aviez parlé d'humour de tout à l'heure, est-ce qu'on peut parler aussi d'ironie ? Parce qu'il y en a qui sont très... C'est pas Charlie Hebdo, mais c'est...
Ah, vous trouvez dire dans ben, un... Pareil, ça, mais vous me faites que des compliments ce soir. Je suis ravi, je reviendrai. Ouais, Charlie Hebdo, c'est très bien. Mais j'ai été un lecteur assidu de Charlie Hebdo, depuis le numéro 1.
Oui.
Absolument. Et je sais pas si ça m'a... Non, mais il y a un petit côté décapant que j'aime bien, c'est vrai.
Parce que ça se voit dans certaines...
Ah, vous trouvez ah, bon
ah oui.
Ah, bah, tant mieux, je suis très content. C'est peut-être, comme vous dites, comme on dit sur le plan psychanalytique, des occasions manquées ou des...
Oui, des actes manqués.
C'est ça ? Des actes manqués, je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Mais c'est pas comme ça que je le ressens, quoi. Les titres, en général, j'essaie de... Je ne pompe pas sur un journal ou sur quoi que ce soit. Mais l'atmosphère, mais... oui, l'atmosphère Charlie Hebdo. Oh ben, j'ai adoré Rezer, Volinsky... Willem, enfin je sais pas, qui existe toujours.
Oui, il y a Ciné qui vient d'être viré.
Ciné, oui, voilà, qui vient de se faire virer. Mais enfin, c'est plus le même Charlie Hebdo. Hein.
Ouais.
Je n'ai pas très bien compris pourquoi il s'est fait virer. D'ailleurs, on le taxait d'antisémitisme,
ouais,
entre autres.
Ouais.
C'est vrai.
C'est ce qui a été dit. Mon
moi, j'ai lu des trucs, mais bon, ça n'apparaît pas. Il y en a qui le défendent, becs et ongles. Et il y en a qui disent, oui, c'est vrai, il avait des propos. Je ne sais pas, enfin. Ça n'enlève rien à sa drôlerie, à son humour. Et
Oui, c'est ça. C'est qu'il faut penser en premier que c'est un humoriste, c'est un dessinateur.
Oui, oui, oui.
Donc,
oui. Oui, Charlie Hebdo, c'est bien. J'aime que vous me parliez de Charlie Hebdo.
J'ai pensé à ça en regardant certaines de vos toiles
que
j'avais vues à cette fameuse exposition. Je me suis dit, tiens.
Ah oui, mais pourquoi pas, c'est bien. Bah, écoutez, il faut vivre avec son temps, de toute façon. C'est bien.
Le professeur Choron n'est pas loin.
Oui, pourquoi pas, écoutez. J'ai pas été jusqu'à là, mais enfin.
Non, quand même pas. Non, non.
Ouais, c'est pas mon truc, mais enfin, ça me faisait beau. Harakiri, j'étais plié de rire, moi, en lisant ça. C'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Mais ça m'a apporté sur le plan idée, je pense, sur le plan la vie en général, quoi. Comme écouter beaucoup de Brassens, ça m'a, étant plus jeune et toujours maintenant, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a aidé dans certaines circonstances et ça m'a beaucoup enrichi sur le plan vision de la vie en général. Enfin, je trouve ça toujours aussi beau d'ailleurs.
Vous écoutez de la musique quand vous peignez ?
Oui.
Oui.
Tout le temps. J'écoute du jazz. J'écoute le jazz, c'est pareil. J'écoute ça depuis l'âge de 18 ans. J'étais au lycée. Hein. Et puis, j'en ai écouté toujours. Alors, le jazz, j'en écoute tout le temps. Alors maintenant, à ma grande honte, mon fils, il me pique des trucs sur Internet. Là, il va chercher des CD de temps en temps sur Internet. J'ai une grosse collection de disques de jazz, plein de vinyles encore.
Il faut les garder.
Oui, je les garde. Il paraît qu'il faut les garder, oui. Okay. Non, mais je les garde de toute façon, oui. Même il m'a fait une clé USB... Il m'a mis dessus, je ne sais pas, il y a 30 CD ou 40 CD là-dessus.
Oui.
C'est fou. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, ben, j'écoute beaucoup, beaucoup de jazz. Tout jazz. Hein. J'aime autant réécouter des King Oliver des années d'avant Armstrong, qui a lancé Armstrong, jusqu'à du free jazz. J'écoute de tout. sans problème, sans
distinction. C'est le jazz en général, il n'y a, ouais. Il y a pas un mouvement particulier dans le jazz.
Il y a des types que j'aime bien, si, beaucoup, il y a des types que j'ai adorés, comme Sonny Rollins, au ténor, que j'ai beaucoup. Archie Shepp aussi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup. Puis bien sûr, Miles Davis, Ellington, que j'ai vu en concert. Puis je suis allé à beaucoup de... Je vais toujours voir écouter du jazz, oui.
Vous pensez que le 6e arrondissement a gardé ce caractère jazzy qu'il avait dans les années 50?
Mais je crois pas, hein, je sais pas. Il n'y a plus beaucoup de boîtes comme il y avait. Je venais beaucoup plus souvent quand j'avais la trentaine que maintenant, hein. Pour écouter, je me rappelle avoir vu Memphis Slim.
Oui.
Je sais plus où c'était, dans une boîte où il y avait des escaliers très raides pour descendre, là.
C'est pour le caveau des oubliettes?
Peut-être bien, qui était derrière Saint-Michel, là. Oui, c'était, c'est ça. Hein, c'est ça, hein. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu une fois, je me souviens plus des noms, je sais pas si c'était Ben Webster ou je sais plus. Je parle dans les boîtes du coin, hein.
Oui, oui, oui.
Et sinon, bon, en concert, on allait avec un copain, toujours le même, que j'ai connu au lycée, avec qui j'ai démarré la peinture. Et on allait écouter des concerts de jazz. On est allé voir Thelonious Monk. Il avait donné deux concerts à Paris, on a été les deux fois, ou deux. Oui. On est allé voir Coltrane, le quartet qui remontait d'Antibes, je crois. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Gillespie, enfin j'en ai vu plein, j'en ai vu beaucoup. J'en écoute beaucoup. Voilà, chère madame.
Alors c'est amusant parce que dans le quartier, on va parler un peu du quartier aussi, au niveau de jazz, on s'aperçoit que très peu de temps,
oui.
Très très peu de temps, je dis ça, il y a des cafés qui s'ouvrent de plus en plus, se rouvrent de plus en plus au jazz. Bon, on est en bas avec le Hall Navy, avec le jazz manouche, mais je me suis aperçue qu'il y avait un petit restaurant qui vient de s'ouvrir sous les halles de Saint-Germain, qui lui aussi va s'y mettre et qui va faire des soirées jazz manouche.
Ah d'accord, oui. Tiens,
donc bien, ça revient tout doucement, mais ça revient.
Tant mieux. Vous savez que dans le temps, il y avait au musée d'art moderne de la ville de Paris, tous les dimanches, il y avait des concerts de jazz gratuits. Mmh. Et j'y allais tous les dimanches à peu près. Bon, il y avait tous les musiciens français qui se produisaient. Enfin, français ou... Daniel Humer, il n'est pas français, je crois qu'il est suisse. Il y avait Daniel Humer, Martial Solal, qu'est-ce que j'ai vu, un tas de types... François Janot, Michelot, Urtreger, enfin, ils se produisaient tous les dimanches après-midi, c'était formidable, hein, formidable. Il y avait une espèce d'amphi, là, et c'était super. Donc tous les dimanches, on allait au musée d'art moderne, on en profitait pour aller voir la peinture, voir les collections, et puis on allait écouter le concert de jazz en fin d'après-midi.
Ah, ça c'est génial, ça.
Super, c'est super, dommage qu'ils aient arrêté. Ah oui.
Quel est votre calendrier au niveau des expositions ou des galeries en ce moment, ou dans les mois qui arrivent?
Là, pas grand-chose. Si, j'ai une expo de groupe dans une petite galerie, moi, qui est vraiment perdue dans la jungle, qui est à Èvre. Vous connaissez Èvre? Non, je pense pas. C'est près de Montbazon.
Oui.
C'est encore la Touraine. Elle a un lieu qui est très beau chez elle. Avant, elle était installée à Montbazon, mais je travaille avec elle depuis une quinzaine d'années. Et elle avait trop de... C'était au bord de la Nationale, c'était désagréable. Et puis elle avait trop de charges, donc elle a rapatrié sa galerie chez elle. Où elle a... Ils ont fait des travaux, c'est superbe, c'est vraiment un très beau lieu. Mais il faut vraiment avoir envie d'y aller, quoi. C'est vraiment paumé dans un bled... C'est impossible. Et donc là, elle fait une expo de groupe, de petit format, toujours au moment de fin d'année. Donc je lui ai donné quelques toiles, ouais. Sinon, les projets, l'année prochaine, il y a la Biennale, le Salon des 109.
Oui.
Donc, c'est un gros projet quand même, d'organisation. Alors c'est à la Cité internationale des arts, qui est de l'Hôtel de Ville. Il y a donc, on est près 70-80 artistes, hein, sculpteurs et peintres. Et puis on a une expo aussi de groupe avec les 109 à l'usine Azabu, qui est un lieu, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est un centre culturel en Normandie qui est un gros truc, hein, un grand truc qui est subventionné par le département. Enfin. Donc voilà les deux projets pour l'année prochaine, pour le moment c'est ça.
Ah, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est bien.
En général, ça demande des préparations de toiles ou vous avez votre quota et vous pouvez être tranquille pour les présenter.
Enfin, ma pauvre, j'ai une telle quantité de toiles chez moi que je n'ai aucun problème de nombre de toiles à montrer, quoi. Là, on en a mis 50 au lycée Jules Ferry, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, si elle avait voulu. Enfin, de toute façon, la place était faite pour ça. Mais non, vous savez, les toiles, on en accumule plus qu'on en vend. Hein. Donc, ça finit par déborder d'un peu partout. Quoi. Non, j'ai pas de problème de... je fais deux, trois grands formats pour les 109. Je vais mettre quelque chose de nouveau. Donc, je fais un 100 figures, qui est quand même un format assez grand. Mais sinon, je mets les choses que j'ai déjà... J'essaie de pas trop montrer toujours les mêmes, quoi. Je fais tourner un peu. Je vous dis, quand j'en ai marre, je les détruis, je refais d'autres. Question de plage, j'ai un atelier qui est pas très grand. Donc je suis obligé, là il est archi plein. Un jour, si vous avez l'occasion de venir, vous verrez. Vous comprendrez mieux mon problème de place.
D'accord, ça sera avec plaisir. Bien, nous allons terminer là.
Ah bah écoutez, c'était très bien.
Je vous remercie beaucoup, Daniel, d'avoir participé à cette émission, d'être venu et d'avoir osé parler de vous.
Ah bon, oui. Écoutez, voilà, j'étais content. Peut-être que ça va me faire du bien moi aussi. Ça va me permettre de voir les choses sous un angle un peu différent. Je ne sais pas, on verra. Je vous dirai ça la prochaine fois.
Voilà. En tout cas, la radio vous est ouverte. Vous pouvez venir quand vous voulez.
Vous êtes très gentil. Je vous remercie de votre accueil.
Très bien. Alors aujourd'hui, nous recevions Daniel Iwartowski, qui est artiste peintre et que vous pourrez bientôt voir dans une biennale l'année prochaine. Donc c'est la biennale du 109, c'est
oui.
ça ? Voilà.
La biennale du 109.
Sur Paris. C'est à partir de quelle période ?
Ça sera au mois de... Ça fait presque dans un an. Parce qu'on n'a pas pu avoir les... Ça dure pendant 10 jours, c'est début décembre.
Début décembre, d'accord.
Et l'Expo Normandie, qui est l'usine Azabu, ça va être au mois de juillet, là.
La prochaine fois que je vous reçois, je voudrais qu'on parle des FIAC.
Tiens, c'est une très bonne idée, ça, là, j'aurais... Oui,
hein,
pas de problème. Ouais. Je vais aller à la FIAC, j'y vais en général tous les ans pour voir ce qu'ils montrent, oui.
Bien, eh bien écoutez, je vous dis bonsoir à tous. Autre radio, autre culture, à très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.